Alors c'est la suite de la fois passée, comme toutes les suites, les suites sont toujours la suite de la fois passée. Évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, quatre récits de la vie de Jésus, quatre sortes de biographies. Et je reprends la question posée la fois passée, ces récits sont-ils fiables? Peut-on leur faire confiance? Et j'avais surtout, la fois passée, rebondi sur deux mises en cause de cette fiabilité. D'abord la question, est-ce que les auteurs des évangiles... L'affirmation, les auteurs des évangiles ne sont pas fiables parce qu'ils ont du parti pris. Et puis, les évangiles ont été écrits longtemps après les événements, alors comment est-ce que ça pourrait être fiable? Je ne reprends pas ce que j'ai dit la fois passée. Et j'arrête de répéter la fois passée à chaque phrase. Je vous propose à présent quelques-unes des raisons qui nous invitent à la confiance par rapport aux évangiles. Et c'est dire en quelques mots ce que l'on sait sur la façon dont des récits importants étaient transmis. Car c'est bien à cela que nous avons affaire, à une transmission, je dirais à une tradition, et l'illustre très bien le début du passage suivant que je reprendrai à la fin, tout à l'heure. C'est dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, justement avant le texte, enfin pour introduire le texte d'institution à la scène, Paul écrit au verset 23, « Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. » Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort. Et je vous propose trois informations qui concernent la transmission, la tradition, et à la fin, je vous proposerai des prolongements plus pour nous, donc autre chose que des informations. La première information, elle concerne la façon dont les Juifs considéraient leurs textes sacrés. Alors cette information ne nous vient pas du 1er siècle, de l'époque de Jésus, on n'a que des informations plus tardives, du 5e siècle. On n'a pas de traces plus anciennes, mais on peut juste dire qu'il est très probable, voire plus que ça, que les choses se passaient de la même façon au 1er siècle, parce qu'on a affaire à des sociétés anciennes, et des sociétés anciennes fonctionnent de manière relativement fixe. C'est différent pour nous. Nous qui avons une version de Windows tous les deux ans, ça change, il faut mettre l'ordinateur à jour, ça n'arrête pas de changer. Ce n'est pas le cas dans les sociétés anciennes. Et à cette époque, donc, c'était un peu comme pour l'école du dimanche, le culte d'enfants, sauf que ce n'était pas tout à fait mix. Enfin, c'était mix âge, mais ce n'était pas mixte. Autrement dit, un certain nombre de garçons juifs, tous, je ne sais pas, mais quand ils avaient entre 5 et 13 ans, recevaient une instruction élémentaire. Pas les filles. Et au programme, c'était l'Ancien Testament. Et au programme, on le mémorisait, l'Ancien Testament. On s'aidait de plusieurs moyens pour le faire. Il y avait des moyens mnémotechniques. Il y avait la dimension musicale. Il y avait la répétition, etc. Donc on invitait les élèves d'abord à apprendre le passage par cœur. Et ce n'est qu'ensuite, dans un deuxième temps, qu'une fois qu'il était appris, qu'on commençait à discuter de l'interprétation du texte. Je parle du monde juif, mais en fait c'est la même chose, enfin c'est le même fonctionnement dans le monde grec. Puisque c'est pas l'Ancien Testament, les élèves grecs étudiaient de leur côté les textes d'Homère, l'Iliade, l'Odyssée, mais ils les étudiaient, on le sait, avec des méthodes analogues, et eux aussi donc mémorisés. Et on a retrouvé suffisamment de témoignages juifs et grecs anciens, extérieurs bien sûr à la Bible, qui montrent qu'on mémorisait des quantités impressionnantes de textes. Et c'est pas si étonnant, d'ailleurs, pensez aux personnes qui font du théâtre aujourd'hui. Ils en savent des kilomètres. Sauf qu'à l'époque, on n'a pas le choix, parce que vous le savez bien, il n'y a pas de photocopieur, il n'y a pas d'électricité déjà, donc c'est compliqué. Et reproduire un texte demande des compétences que tout le monde n'a pas. c'est une culture orale, et c'est une culture qui a quand même ses propres moyens pour transmettre. Des moyens qu'on a oubliés ou qu'on oublie en Occident aujourd'hui, et des moyens pour conserver une mémoire précise des événements, des discours et des récits, quand ces discours, ces événements, ces récits sont importants. Alors je dis qu'en Occident, on ne le connaît peut-être pas beaucoup aujourd'hui, mais peut-être il y a parmi nous des personnes qui viennent de cultures où l'oralité joue davantage un rôle important. Et peut-être celle-là, je ne vais pas caricaturer non plus en disant que puisqu'on vient d'une autre culture, on sait nécessairement mieux que, je ne sais pas, mais peut-être que celles-là ont une meilleure capacité à écouter et à transmettre que nous. En tout cas, un spécialiste du Nouveau Testament, dont je parlerai juste après, vous verrez sa photo, qui a enseigné au Liban, donc là, dans la zone géographique où Jésus a évolué, donc il est décédé il y a une dizaine d'années, je crois, a fait avec ses étudiants une expérience de téléphone arabe. Donc c'est quelqu'un qui dit quelque chose à quelqu'un d'autre, qui va répéter au troisième, etc. Voilà. Et ainsi de suite. Et c'est avec un souci de voir ce qui arrivait au bout. Et il a constaté que la transmission se faisait, parmi ses étudiants en tout cas, avec une très grande fiabilité. Et même, d'ailleurs, les étudiants ne comprenaient vraiment pas pourquoi ils faisaient l'exercice. Alors, ça ne se passe pas toujours de la même façon, comme l'illustre cette image. Donc voilà, le premier, il a vu ça, il le dit au deuxième qui, lui, a vu ça, et puis bon, ça se dégrade, si je puis dire. Et puis j'ai fait l'expérience, avant de partir en coopération, on a fait l'exercice. Donc il y avait, je ne sais pas, une soixantaine de personnes. Et donc on a fait sortir 7 ou 8 malheureux. Et puis on nous a montré une image. Et puis après on en a fait rentrer un, le premier des malheureux, on lui a montré l'image. Donc lui, il a vu la vraie image. OK, on a enlevé l'image. Et puis on a fait rentrer le deuxième. Et donc le premier a raconté au deuxième ce qu'il venait de voir. Et ainsi de suite, on les faisait rentrer les uns à travers les autres. Et c'était très intéressant, on pourrait le faire ensemble, mais on ne va pas le faire maintenant. Voilà, je sais que ça se passait dans le métro, il y avait deux personnes, une qui regardait l'autre, et puis à la fin c'était une agression, et puis d'ailleurs celui qui agressait, soi-disant, avait changé de couleur, il était plus la couleur d'origine, il avait changé. Bon, voilà. Donc c'était assez intéressant. Donc voilà, ça c'est plutôt dans les cultures qui ne sont pas habituées à l'oralité, apparemment. Là... Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors on peut déjà très bien penser que les premiers disciples étaient des personnes qui étaient capables d'apprendre et de retenir quasiment par cœur bien plus que nous. Et qui plus est, il faut aussi se souvenir que Jésus a raconté probablement ses enseignements, a répété ses enseignements à plusieurs reprises. Il ne disait pas une chose à un certain endroit, puis après il allait en dire une autre. Enfin, si, il pouvait dire des choses différentes à différents endroits. Mais ce qu'il disait à un endroit, il pouvait très bien le répéter à un autre endroit. Et du coup, ça nourrit la mémoire. Autre élément qui va dans le même sens, si nous sommes familiers de l'Évangile, je pense que c'est dans Matthieu 10, et parallèle, les Évangiles rapportent qu'au moins une fois, Jésus a envoyé ses disciples pour transmettre ses enseignements. Ce qui veut dire qu'ils devaient bien penser qu'ils étaient capables de le transmettre de façon juste, avec suffisamment d'exactitude. Et puis il les a même envoyés par deux, ce qui pouvait permettre aussi probablement, entre autres, que l'un puisse corriger ce que l'autre disait, si celui qui parle se trompait. Donc pour l'Ancien Testament en tout cas, parole d'autorité pour les Juifs, la transmission était assurée avec une bonne certitude. Alors bien sûr, on ne peut pas être sûr, on ne peut pas prouver qu'on ait traité les paroles de Jésus de la même façon qu'on traitait l'Ancien Testament, surtout au début des paroles de Jésus. Mais pour autant, la transmission n'était pas rudimentaire, et si Jésus correspond au portrait qui nous est donné de lui, donc quelqu'un dont même les adversaires disaient qu'aucun homme n'a parlé comme cet homme, si bien qu'ils n'avaient même pas eu le courage de l'arrêter. Donc si Jésus correspond à ce portrait, quelqu'un qu'ils ont considéré avec respect, avec dévotion, jusqu'à donner même ensuite leur vie pour lui, On peut bien imaginer qu'ils aient recueilli, qu'ils aient transmis, si j'ose dire, religieusement, ses actes et ses propos. Et d'ailleurs, il serait même assez logique de penser qu'ils aient très tôt pris des notes sur ce que Jésus avait dit et fait. On estime à l'époque que dans le judaïsme, ce n'était pas vrai partout, mais dans le judaïsme en tout cas, 20% des hommes savaient écrire. On peut en tout cas penser qu'au minimum, les disciples les inscrits dans leur mémoire. Et probablement, ils ont été aussi attentifs que nous pouvons l'être aujourd'hui. Quand nous entendons quelqu'un dont l'enseignement nous marque, eh bien, on prend des notes. Il arrive même à certains d'entre nous de prendre des notes parfois lors d'une prédication, pendant le culte. Et c'est pas Jésus qui parle, alors a fortiori. Donc, premier élément d'information, les textes sacrés, on a confiance qu'ils s'étaient bien transmis. Deuxième élément d'information, donc il est dû au travail de celui dont je viens de parler. C'est un linguiste et un professeur de théologie, dont je n'ose pas prononcer le nom parce que j'ai peur de prononcer en français un nom qui ne se prononce pas comme ça. Bailey. Il a travaillé donc à la fin du XXe siècle, au Proche-Orient actuel, sur la façon dont les traditions se transmettaient oralement. Et il a distingué trois types de traditions. Alors, la première, on recoupe ce que je viens de présenter, une tradition très contrôlée, très très formelle. Et là, on transmet avec une grande exactitude. Donc ça, c'est le modèle précédent. L'apprentissage de l'Ancien Testament par cœur, aucune place possible pour la variation. Deuxième modèle, ce qu'il appelle une tradition informelle non contrôlée. Du style de la diapo que je vous ai passée, du style de ce qu'on se raconte au café du commerce. Et là, évidemment, c'est beaucoup moins fiable. Et puis, il constate, dans la culture dans laquelle il a évolué, qu'il y a aussi des traditions informelles et contrôlées. Et qui semblent bien, en tout cas, être le cas de figure le plus proche des évangiles. L'image où est-ce qu'elle vaut, c'est juste pour dire que voilà qu'il y a une marge de manœuvre, je vais m'expliquer. On voit bien quand on lit les évangiles, quand on lit le même récit d'ailleurs dans plusieurs évangiles, on voit bien qu'il s'agit de la même histoire, du même épisode. Mais on voit aussi que ce n'est pas identique au mot près. La façon dont Matthieu raconte parfois et la façon dont Marc raconte, ce n'est pas identique au mot près. Il y a des petites variations, et ces variations sont liées au fait que parfois on veut souligner tel ou tel aspect. Et Bailey nous dit que cette transmission informelle mais contrôlée, était confiée à des personnes particulières, je ne sais pas si on peut dire des espèces de récitants, et qui transmettaient la tradition avec justesse, tout en ayant une certaine liberté. Ils peuvent la dire avec d'autres mots, ils peuvent la résumer, ils peuvent la réorganiser un petit peu, ce qui offre deux avantages quand l'histoire est assez connue. Le premier, je l'ai déjà dit, c'est que les variations permettent de faire apparaître quelque chose d'important que l'autre n'a pas souligné autant. Et puis, si le récitant faisait une erreur, alors on pouvait le corriger aussi en direct, parce qu'il rapportait l'histoire à des personnes qui sont plus ou moins familières déjà, et qui pouvaient être, donc on pouvait corriger en direct. Et c'est vraisemblablement au moment où les évangiles ont été mis par écrit, c'est probablement ce dernier fonctionnement qui a été mis en œuvre. Tradition informelle mais contrôlée. Et c'est probablement donc ce qui permet de comprendre pourquoi les mêmes récits racontés par deux évangiles ne sont pas tout à fait identiques, racontés au mot près à l'identique. Même s'il arrive aussi qu'on trouve racontés au mot près à l'identique. Donc l'écrit a aussi compté. Donc deuxième élément, une tradition informelle et contrôlée. Une troisième chose doit être prise en compte, Et c'est ce qu'on appelle la mémoire sociale. Et la mémoire sociale, c'est ce qu'un groupe comme le nôtre acquiert simplement par la répétition régulière de certains textes. Et je vous propose de faire l'expérience. Notre Père qui es aux cieux. Voilà. Deuxième essai, un peu moins facile. La nuit où le Seigneur Jésus fut livré, il prit du pain. Ça marche, hein? Et un texte qui n'est pas biblique, mais qui reprend. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Merci. Hop, c'est bon. C'est perdu. Donc ce sont tous ces textes que nous connaissons par cœur. Alors, il y a peut-être certains que vous avez appris dans votre enseignement, catéchisme ou école du dimanche. Mais il y a certains textes qu'on n'a jamais appris par cœur, mais pourtant on les sait par cœur, parce qu'ils sont tellement répétés. Donc ce sont tous les textes qu'on répète, qu'on raconte régulièrement dans des groupes. Alors par exemple, évidemment, dans un contexte cultuel, liturgique, ou bien dans des groupes où on accueille de nouveaux membres, et à l'accueil des nouveaux membres, il y a un rituel, si je puis dire, il y a une habitude qui est de relire le texte fondateur, et du coup, à force de le répéter. Donc ce sont des récits, ce sont des textes qui s'imprègnent en nous, comme les paroles et les mélodies d'un chant. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'au niveau des chants, ce serait la même chose. On peut faire l'expérience si je commence à chanter Victoire au Seigneur de la vie, mais tout à l'heure on l'a chanté, ça aide. Voilà. Mais vous savez aussi à peu près vous débrouiller, je pense. Alors évidemment, c'est sans doute plus limité. C'est peut-être encore plus limité en milieu évangélique où on est gêné par les répétitions à cause de notre héritage historique. Mais ça jouait beaucoup dans la mémoire collective des générations précédentes et de l'époque de Jésus, dont on répétait l'histoire. Donc trois possibilités, et on sait au moins que ces deux d'entre elles, c'est sûr, ont joué dans le christianisme, vraisemblablement aussi, quand on a mesuré qui était Jésus, la première aussi a sans doute joué. Et trois facteurs qui donnent à comprendre comment la mémoire à propos de ce que Jésus a fait et dit a pu se transmettre, et donc de se dire que ça s'est vraisemblablement passé dans de très bonnes conditions, et que ce que nous lisons aujourd'hui dans les évangiles donc est fiable. Jusque-là, je me suis adressé à tout un chacun. En disant, je n'ai pas présupposé que vous étiez croyant en disant ce que j'ai dit. Mais évidemment, le croyant, il rajoutera en plus sa confiance en la promesse de Jésus, en la promesse que l'Esprit allait porter les croyants, allait leur rappeler tout ce que Jésus avait dit et fait. Donc le croyant a un facteur de confiance supplémentaire. Mais même si vous n'étiez pas prêt à avoir cette confiance, je crois qu'il y a suffisamment pour avoir confiance. Alors c'est le moment, du coup, pour moi, de revenir à ce texte de 1 Corinthiens 11 et de vous proposer, en terminant, de méditer cette dimension de transmission et de tradition. Je lis le texte. « Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci. » Toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci, jusqu'à son retour. C'est pourquoi, et il prolonge, Je voudrais faire deux remarques suite à cette lecture. La première, c'est que Paul, c'est le même texte là, mais qui est rangé différemment. Paul rapporte ici ce que l'on trouve aussi dans les trois évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. Je les ai mis côte à côte. Mais si, alors évidemment, vous ne lisez peut-être pas, mais ce n'est pas grave, vous pouvez faire l'exercice à la maison. On se rend compte, même en traduction française, qu'aucun de ces textes n'est identique. Aucune des colonnes n'est identique. Au mot près, je veux dire. Et que Paul n'a vraisemblablement... Du coup, Paul n'a, il ne faut pas s'imaginer que Paul ait recopié l'un des évangiles. Alors, et ceci pour plusieurs raisons, des raisons très simples. Tout d'abord, le Nouveau Testament tel que nous le connaissons, donc avec la table des matières que vous voyez affichée. Donc tous ces livres en un seul volume, mais ce Nouveau Testament, il n'existait pas à l'époque. Pas encore. Il y avait peut-être l'évangile de Matthieu, ou, enfin je ne sais pas trop, un évangile que certaines églises avaient, et puis d'autres avaient, voilà, tout ça n'avait pas été rassemblé. Et peut-être, alors on ne sait pas, hein, voilà, mais il est possible, probable, ou bon, j'en sais rien, 50-50 au niveau pourcentage, j'en sais rien, que Paul n'avait aucun, n'ait aucun des évangiles à portée de main, même s'ils avaient été écrits. Et en tout cas, donc, on constate que Paul ne dit pas les choses au mot par mot comme on les trouve dans l'un ou dans l'autre des évangiles. Et d'ailleurs, en fait, même si on prend les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, ils ne sont pas identiques au mot par mot. Juste déjà Luc, ça commence un petit peu avant, il y a quelque chose qui précède. Bref. Ça veut dire que chaque auteur des évangiles transmet avec ses propres mots ce qui était transmis oralement. Nous avons quatre retranscriptions de la même tradition et probablement quatre retranscriptions qui sont indépendantes ou en partie indépendantes. Et ça illustre bien ce qu'on a vu avant. Parce que pour autant, ces quatre retranscriptions, Matthieu, Marc, Luc, Paul, eh bien, sont extrêmement concordantes. Hein. Et ça donne à voir que la tradition a été bien préservée, que la transmission est homogène. Et donc les trois phénomènes que j'ai évoqués tout à l'heure ont fonctionné, ont probablement fonctionné. Deux, en tout cas, avec une grande certitude, et un, avec une bonne certitude aussi. Donc, là aussi, illustration qu'il y a de bonnes raisons d'avoir confiance. C'était presque un exemple pour illustrer ce qui précédait. Mais je ne m'en tiens pas à cet exemple. Je voudrais aussi avoir proposé un prolongement pour nous. Je crois que ça nous donne à méditer, et ce sera ma dernière remarque, le fait que Paul parle pour cet épisode, qu'il relate, de tradition. Il prend un extrait des évangiles, enfin, il rapporte quelque chose que les évangiles rapporteront aussi, et il le qualifie de tradition. Ce qui laisse entendre que tous les autres récits qui sont rapportés par les évangiles pourraient bien être entendus, pourraient bien être reçus, perçus, qualifiés comme cela, comme des traditions. Alors, le mot tradition est parfois connoté négativement, j'ai eu l'occasion de le dire une fois par le passé au moins. Aujourd'hui, on est parfois très très très, très fiers de se défier des traditions. Les traditions, c'est pesant, c'est pénible, c'est dépassé, puis c'est contraignant. Mais pas que. Il y a la baguette tradition. Ben oui. C'est en utilisant le mot tradition qu'on la vend. C'est ça que je veux faire entendre. Il y a cette maison traditionnelle, on s'en réclame, on sent qu'il y a là des valeurs sûres. Ça, c'est pour aujourd'hui, mais dans les récits bibliques eux-mêmes. Alors, deux choses. Le mot tradition peut être connoté négativement. Dans les récits bibliques, il y a parfois des réserves devant la tradition. Quand elle est sacralisée, et Jésus critique les religieux de son époque qui y sont plus attachés qu'à ce que Dieu lui-même a dit. Matthieu 15, Matthieu 23, par exemple. Mais pas que, et ce récit de Corinthiens, qui laisse entendre que les récits des évangiles sont des traditions, eh bien, il illustre. La tradition dont Paul parle ici, il faut l'honorer. Il la transmet et il compte que ce soit pris au sérieux, très au sérieux. Notre foi chrétienne est aussi de l'ordre d'une tradition. Alors, c'est aussi de l'ordre d'une relation, on est d'accord. Mais voilà, j'insiste sur un autre aspect aujourd'hui. Et du coup, nous voyons Paul qui est soucieux de recevoir et de transmettre à son tour et de tirer les conséquences de la tradition qu'il transmet. Je crois qu'il nous invite du coup à nous voir, nous aussi, aujourd'hui, et comme des héritiers, des personnes à qui quelque chose est transmis, quelque chose qui nous précède, et comme des personnes qui ont à méditer ce qui nous a été transmis, à tirer les conséquences pour nous, et aussi comme des passeurs de tradition, des passeurs de relais. Et c'est ce que nous vivons en ce moment même, en méditant les paroles de Jésus, et je pense aussi surtout aux enfants qui sont à côté et à qui on passe la tradition, et continue comme ça de génération en génération. Et je crois que ça veut dire au moins deux choses symétriques. La première, c'est que la foi chrétienne n'est pas quelque chose que nous aurions à inventer, à développer au fil de nos envies, au fil de nos désirs, parce que ce serait tellement plus fun si on imaginait que Jésus, il avait fait, je ne sais pas trop quoi. Il ne l'a pas fait, mais pensez bien que c'est possible, parce que c'est tellement plus fun de le penser. Ben non. De toute évidence, les premiers chrétiens ne se sont pas permis de telles libertés. Et au contraire, et Paul le fait ici, la tradition sert à contrôler les libertés que les Corinthiens seraient tentés de prendre. Et il dit non, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça en Église. Rappelez-vous, quand Jésus a donné le pain et le vin, c'était pour faire mémoire de sa mort et de sa résurrection. Alors vous ne commencez pas, certains, vous empifferez en mangeant le pain et le vin sans attendre les plus pauvres qui, eux, sont à côté. Ça ne va pas. La tradition n'est pas quelque chose que nous avons à inventer, mais quelque chose que nous avons à recevoir, à recueillir et à laquelle nous avons à conformer notre vie et notre façon de vivre ensemble. Deuxième aspect. La foi chrétienne est quelque chose que nous avons à recueillir et à passer, et ceci avec le même respect, le même soin que nos ancêtres ont mis à la recueillir et à la transmettre, avec les outils qui étaient à leur disposition. Nous pouvons avoir les mêmes, nous pouvons en avoir d'autres. Les leurs sont encore valables pour nous, hein. L'apprentissage par cœur des textes bibliques, par exemple, en est un. Ça reste à la portée de la plupart d'entre nous. Je dis ça, je ne suis pas un bon exemple, hein, donc je le dis sans... ne vous sentez pas accablé, c'est quelque chose que j'aime pas faire, moi. Donc. Mais je sais que ça existe et que c'est vrai, et que, voilà, que je peux faire un effort. La diffusion de la Bible à nos proches, à nos amis, nos voisins, à nos enfants, en est un autre. Lire et dire la Bible individuellement et collectivement, c'en est encore un autre. Paul dit aux Colossiens, chapitre 3, verset 16, que la parole du Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse. Et nous l'entendons probablement spontanément qu'elle réside au milieu de moi, chacun d'entre nous, mais entendons aussi qu'elle réside au milieu de notre communauté, qu'elle y soit ruminée, qu'elle y soit méditée, qu'elle y soit répétée, au point de nous investir ecclésialement, de nous investir individuellement, de nous habiter, au point qu'elle interroge et qu'elle réinterroge constamment notre façon de vivre, individuellement et collectivement. Et je termine en citant des exemples qui m'ont parlé à moi, qui ne vous parleront pas à vous, mais qui m'ont dit, Laurent, peut peut-être mieux faire. Un des premiers exemples qui m'ont frappé, peut-être parce que c'est la première fois que je croisais ce type de bouquin, on n'est pas en milieu chrétien, c'est la lecture d'un commentaire juif de la fin du XIXe siècle sur l'Ecclésiaste, et qui a un caractère un peu singulier, parce qu'en fait, ce n'est pas simplement un commentaire, mais c'est aussi une compilation de commentaires antérieurs, de la tradition antérieure juive. Et c'était... je constatais la familiarité que cet auteur avait avec des dizaines de commentaires de ses prédécesseurs. Mais ce n'est pas tellement ça, il ne s'agit pas de reproduire pour reproduire, mais cette familiarité, il la mettait à profit pour sa méditation. Il en écartait ce qui ne lui convenait pas, il ne prenait pas bêtement en disant « je prends tout, c'est bon, non, de toute façon ce n'est pas viable », mais il la mettait au profit, il nourrissait son exposé de ceux qui l'ont précédé. Et j'ai discuté avec un ami qui me racontait un peu le fonctionnement à l'époque aussi, enfin, je pense peut-être toujours aujourd'hui, où c'était tout le samedi, tout le sabbat qui était consacré à la discussion, à l'échange, à la mémorisation autour de la Bible. Des journées, des semaines, des journées qui s'accumulent semaine par semaine, où c'était ça qui baignait la vie des personnes de la communauté juive. Donc nourri qu'il était de la fréquentation de la Bible et de l'héritage de ceux qui l'ont précédé et qui l'avaient médité avant lui. Et de sa fréquentation d'une communauté qui était portée par les mêmes valeurs. Ce que je veux dire, c'est qu'il bénéficiait de toute l'émulation qui pouvait naître. Vous connaissez cette histoire, je pense, comment on fait boire un âne qui n'a pas soif. C'est difficile, mais mettez à côté un âne qui a soif. Ça va l'encourager. Deuxième exemple qui m'a touché, c'est à la même époque, donc fin du 19e siècle, qu'ont été compilées pour les premières fois, je crois, les concordances bibliques. Alors les concordances bibliques, je ne sais pas si vous êtes familier de l'outil, bon, vous n'arrivez pas à lire, c'est normal, moi non plus, même ici. Mais donc il y a un mot qu'on trouve dans la Bible, et puis tous les endroits où on les trouve dans la Bible. Donc voilà, grosso modo, vous prenez tous les mots de la Bible, vous les rangez par ordre alphabétique, et vous mettez les références chaque fois, ça vous donne la concordance. On les a compilées, les premières, au 18e, 19e siècle. Il n'y a pas d'ordinateur à l'époque. Ça se fait à la main. Des millions de mots qu'on classe par ordre alphabétique. Et devant chaque mot, on indique la référence biblique devant laquelle il est utilisé. Et parfois, c'est une seule personne qui a fait ça. Il faut avoir un goût de la Bible, il faut avoir un respect de la Bible pour ça, et s'y investir. J'aurais pas le courage, même 30, 40 ans avant, j'aurais pas ce courage-là. Et puis une dernière chose, c'est très personnel aussi, mais ce sont des exemples personnels que je propose. Je reste dans la gratitude d'avoir pu être en contact en France dès mes premiers pas de vie chrétienne. Je suis devenu chrétien en milieu pentecôtiste, vous le savez, Assemblée de Dieu, et avec quelqu'un qui était probablement l'un des rares pasteurs pentecôtistes à s'être intéressé au grec. Et quand j'ai voulu m'y mettre, je ne sais pas trop pourquoi, eh bien il était là. Et il m'a tout de suite donné les conseils pertinents pour le faire. Mais dans le milieu chrétien où nous étions, je pense, et lui et moi, on était un petit peu à contre-courant. C'était un petit peu exotique pour le moins. Mais merci. J'étais heureux d'avoir quelqu'un qui avait goût à ça et qui a pu m'aider aussi à avoir goût. Tradition, transmission. C'est en voyant d'autres respecter, c'est en voyant d'autres valoriser dans tout leur être Jésus et la tradition biblique. En voyant d'autres soucieux de s'en imprégner, investis, engagés, cherchant à la vivre, que nous voyons, nous-mêmes aussi, encouragés à la transmettre, et plus encore, que nous nous faisons aussi une idée devant cet investissement, s'ils s'investissent tant, c'est que celui pour lequel ils s'investissent doit vraiment compter. Donc que nous nous faisons une idée aussi de celui auquel la tradition biblique nous rapporte. Et c'est en la respectant nous-mêmes que nous contribuerons nous aussi à la relayer. Mes frères et sœurs, que nous vivions ça. individuellement et collectivement.